Stan.
Rebonjour Pascal.
Voilà, nous sommes toujours dans ce cours MVA sur l'évolution de Windows Server 2003 vers un data center moderne et les aspects migration technique et méthodologique. Et donc dans cette troisième partie, on va s'intéresser plus particulièrement à la migration des différents services qu'on va rencontrer sur nos serveurs de Windows Server 2003 qu'on va vouloir migrer. Donc parmi ces services, il y en a quelques-uns auxquels on pense tout de suite. Il s'agit des services de type serveur de fichiers, qu'on va rencontrer beaucoup sur nos serveurs 2003. Des serveurs web, des serveurs IIS également, c'est des rôles très répandus. Active Directory, évidemment, qui sous-tend l'ensemble de l'infrastructure. Et puis des services un peu plus spécialisés, comme les services de terminaux, Terminal Services, qu'on va migrer peut-être vers du remote desktop un peu plus moderne. Et puis un cinquième exemple particulièrement intéressant, c'est les serveurs applicatifs. Qui héberge des applications, qu'est-ce qu'on va en faire de ces serveurs. Donc on va s'intéresser un petit peu à certains de ces rôles et quels avantages on voit aux nouvelles technologies, aux dernières versions, et puis comment on se débrouille pour aller migrer tout ça. Donc on va s'intéresser à des rôles, les premiers rôles à migrer, dans l'ordre un petit peu logique de la migration. Alors c'est sûr que ça va dépendre un petit peu de l'infrastructure de chacun, des circonstances de chacun, mais en général on peut considérer que tout va commencer autour de l'Active Directory et donc il va falloir s'intéresser au DNS dès le début, de façon à poser l'Active Directory par là-dessus. Donc l'Active Directory va venir tout de suite en deuxième. Le DHCP, c'est également un service réseau qu'on utilise tous pour tous les postes de travail, donc il va falloir s'en occuper très rapidement. Et puis les premiers services vraiment utilisateurs, comme les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression. Voilà à quoi on va s'intéresser en gros dans cette présentation-là, avec quelques démonstrations. Donc une chose intéressante dans Windows Server 2012 R2, c'est qu'on a des outils de migration prêts à l'emploi, gratuits, qui sont dans le produit et qu'on va pouvoir utiliser pour migrer nos différents services avec différents mécanismes, différentes options qu'on va regarder un petit peu dans nos démos. Donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle outil de migration, qui se trouve dans le produit et qu'on peut installer donc soit par le Server Manager, soit par la commande Install Windows Feature de PowerShell, et qui s'appelle Migration, si on l'utilise par PowerShell, comme c'est indiqué ici. Donc on va faire Install Windows Feature Migration pour l'installer sur un serveur local. Et si on veut l'installer sur des serveurs distants, on va rajouter l'option moins computer name et le nom de l'ordinateur. Une fois qu'on aura fait ça, donc en fait, on va faire ça une première fois sur les serveurs 2012 R2 qui vont être les cibles de nos migrations. D'accord ? On va avoir des services sur des sources 2003 et qui vont être migrés vers des cibles 2012 R2. Donc sur nos cibles, on va faire ça, on va installer la feature migration. Sur les sources, il va falloir installer quelque chose également. Donc l'outil de migration qu'on va prendre sur la cible, on va l'utiliser pour générer des packages et qu'on va ensuite ces packages copier sur nos serveurs sources, que je ne mélange pas les pinceaux, donc sources. et donc on va dire, je génère le package pour l'architecture AMD64 ou X86 en fonction de l'architecture de mon serveur source, pour tel OS, 2003, 2008, 2008 R2, etc. Et puis, je vais déposer ça avec l'option /path, pas facile à dire, vers un share, un DFS, un truc comme ça qui sera accessible par tout le monde. Donc, tout ça avec une commande qui s'appelle smigdeploy.exe, qui fait partie de ces features, de cette fonctionnalité qui s'appelle migration dans Windows Server 2012 R2. On génère ces packages, on les copie sur le serveur source Windows Server 2003, et sur le serveur 2003, on va prendre ce package, on va exécuter l'exécutable smigdeploy.exe, donc smig pour server migration deploy.exe. Et en fait, le fait de juste l'exécuter sans aucun paramètre, ça va générer, ça va intégrer en fait dans le PowerShell présent sur le serveur 2003 les composants qui vont bien pour faire ensuite la migration. Donc en gros, des snap-in à l'ancienne mode pour PowerShell première version.
Alors, est-ce qu'on a des prérequis pour lancer ces composants sur le serveur 2003?
Alors, ça tombe bien que tu me poses la question, parce qu'on a quelques prérequis, mais qui ne sont vraiment pas très compliqués. On a juste besoin d'un .NET à partir de la version 2, sur Windows Server 2003, et puis également d'un PowerShell 1.0 ou plus. Donc, c'est raisonnable comme prérequis. Et un tout petit peu d'espace libre, le tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu, c'est moins de 100 mégas, je crois. Donc, c'est pas grand-chose, mais on a déjà rencontré des serveurs avec... 0 espace disque, donc il faut peut-être faire attention à ça également.
En même temps, si on a un serveur avec 0 espace disque, on a d'autres problèmes en fait que simplement la migration. C'est que déjà,
tout à fait.
Déjà, il y a un souci quelque part. Alors, si on commence, premier élément, tu l'as dit tout à l'heure, on va souvent commencer par l'Active Directory. Oui. On peut même mettre quelque chose avant l'Active Directory, ça dépend. C'est le DNS. Hein, c'est une grande règle de base, c'est que l'Active Directory a besoin du DNS et que une grosse partie des problèmes liés à Active Directory sont souvent liés à un problème de configuration du DNS, hein, pour faire simple. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la migration de la partie DNS, c'est probablement une ou la partie la plus simple de la migration. En fait, on va avoir deux cas possibles pour la migration d'un DNS, d'un environnement 2003-2003R2, vers un environnement plus moderne, 2012-2012R2. Donc, cas numéro 1, c'est souvent, enfin, généralement le cas quand on a de l'AD. Quand on fait de l'AD, on installe sur les contrôleurs de domaine en plus le service DNS et on fait des zones intégrées Active Directory. C'est en général le cas par défaut quand on fait les installations et puis ça marche bien. Et donc, quand on a des zones intégrées Active Directory, pour faire la migration, c'est relativement simple. On introduit dans le domaine existant un nouveau contrôleur de domaine qui, lui, par contre, exécute Windows Server 2012R2 ou 2012 avec le rôle DNS. On autorise la réplication. Donc, du coup, la zone intégrée DNS qui est intégrée dans l'AD va être répliquée sur le nouveau contrôleur de domaine qui est sur une base 2012. D'accord. On met à jour les options des DHCP pour dire et les clients DHCP pointés vers ce nouveau serveur DNS. Si on a retiré l'ancien serveur DNS, quand on aura retiré tous les anciens serveurs DNS, on pourra même remettre les anciennes adresses IP. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est terminé. Donc là, il y a vraiment quasiment rien à faire si ce n'est effectivement rajouter dans l'Active Directory des nouveaux serveurs sur un OS plus récent et de laisser la réplication AD se faire. Donc ça, c'est plutôt simple. Le deuxième cas, c'est si on a choisi d'avoir des serveurs DNS avec des zones qui sont non intégrées dans l'AD, voire éventuellement des machines qui ne sont pas des contrôleurs de domaine, mais qui font que la partie serveur DNS. Donc chaque zone DNS correspond en fait à des fichiers, qui sont les fichiers de zone qui contiennent l'ensemble des enregistrements DNS de cette zone. Donc comment ça va fonctionner? Mettons que vous ayez des standalone, on va exporter et copier la configuration des fichiers de la zone DNS sur le serveur cible, donc le nouveau qui est sur du 2012. Donc là, la copie, donc l'export, la copie, c'est des opérations relativement simples. Hein. Export, puis copie des fichiers du vieux serveur vers le nouveau. Sur le nouveau serveur, on importe la configuration, on importe les fichiers de zone. On met à jour, là encore, le DHCP pour faire pointer vers le nouveau serveur DNS. Et c'est terminé.
Et voilà.
Alors, du coup, si on a un DNS qui est bien propre dans la nouvelle version, l'option après, ça va être de migrer effectivement la partie Active Directory. C'est-à-dire monter son Active Directory. Et nous, on encourage fortement à aller sur de l'AD 2012R2. Parce qu'en fait, si on compare 2003-2003R2 avec un 2012-2012R2, 9 ans quasiment d'écart dans les extrêmes. Et du coup, un paquet de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Alors, on va faire un petit peu le tour avec Arnaud, comme ça, de tout ce qu'on a eu là-dedans.
Ouais, alors les deux sont extrêmement liés. De toute façon, ça dit ça, si tu parlais de. On peut rajouter un sens du DNS et de l'AD. Notamment, une des nouveautés du DNS dans les versions récentes, c'est le background zone loading, qui permet effectivement de ne pas attendre que l'Active Directory soit prêt pour loader complètement la base DNS et commencer à ce que le serveur DNS soit opérationnel. Parce que c'était un des gros problèmes de 2003, c'est qu'il fallait attendre que l'AD soit opérationnel pour commencer à servir les requêtes DNS. Et donc ça mettait beaucoup de temps. Donc maintenant que le background zone loading, en fait, on est capable de commencer à servir des requêtes qu'on va aller interroger directement sur un contrôleur de domaine, même si la base AD encore n'est pas chargée en local, en fait. Donc ça permet, enfin ça c'est extrêmement lié, tu vois, les nouveautés sur l'Active Directory et sur le DNS, mais ça c'est une des nouveautés qui, un petit peu entre les deux.
Et sur l'AD, on peut dire vraiment qu'il y a deux grandes marches, quoi. Et la première marche, c'est vous passez d'un 2003 à un AD en 2008-2008R2, où là il y a un gros paquet de nouveautés fonctionnelles. Et puis il y a une deuxième grosse marche qui est effectivement les AD en 2012-2012R2, où il y a là encore un gros paquet de nouveautés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé finalement les deux, parce que on sait que des fois dans des environnements, il y a des contraintes de multi-domaines, multi-forêts qui font qu'on ne peut pas directement aller sur la dernière version, ou peut-être simplement s'aligner par rapport à des versions existantes dans d'autres filiales. Donc les grosses nouveautés, en résumé, pour 2008 et 2008R2 sont 1.
Le DC Promo, la dernière version de DC Promo, avant qu'il disparaisse, en 2012 il disparaît, hein, mais il y en a une version qui a évolué en 2008 R2 pour être plus flexible, apporter plus d'options et permettre plus d'interactions lors de la promotion d'un contrôleur de domaine.
Une autre grosse nouveauté de 2008-2008R2, c'était le RODC, le contrôleur de domaine en lecture seule, qui était vraiment conçu pour les environnements de type branch office, c'est-à-dire des environnements où on a en fait un réseau éparpillés de contrôleurs de domaine, avec des contrôleurs de domaine qui physiquement sont dans des locaux entre guillemets non sécurisés et gérés pas forcément par des personnes de l'IT, mais des fois par des prestataires, etc. L'idée en fait était d'avoir une base de données Active Directory qui contienne moins de choses que la base originale, c'est-à-dire une base en lecture seule qui ne contient pas les hashes, les condensés des mots de passe des utilisateurs, ce qui fait que si la machine est physiquement volée, eh ben, du coup, on ne peut pas faire une attaque offline sur les condensés des mots de passe, vu qu'il n'y en a pas. Et le RODC a également cet avantage de séparer les comptes d'administration, c'est-à-dire qu'on peut avoir un compte d'administrateur local qui peut être donné par exemple à un prestataire qui va venir changer un composant matériel et qui aura besoin de droits d'administration pour changer un pilote, sans lui donner les droits sur l'ensemble de l'Active Directory. Voilà. Donc ça, c'est vraiment prévu pour ça.
On a pris avec 2008 R2 le support du rôle serveur core pour l'Active Directory. Donc en gros, avoir un serveur qui ait beaucoup moins de surface d'exposition et qui ait beaucoup moins de composants logiciels à installer, pas d'interface graphique, on est capable de faire une espèce de black box d'authentification dans l'Active Directory, en gros, sans aucune interface. On pouvait combiner les deux, d'ailleurs c'était super intéressant, on avait un RODC qui était serveur core, donc super sécurisé dans l'environnement. Il y a des risques physiques et des risques logiciels, donc on diminue les deux surfaces d'exposition.
Les multiples stratégies de mot de passe sont assez intéressantes parce que ça fait des années en fait qu'on vous explique, enfin plutôt dans les années 2000 et 2003, qu'effectivement une stratégie de mot de passe par domaine. Ce qui fait que dans certains cas, quand on avait des populations très différentes entre par exemple des VIP qui devraient avoir des mots de passe un peu complexes, mais qui dans les faits en général demandent des mots de passe moins complexes parce qu'ils sont plus importants, ils ont plus de privilèges par rapport aux autres utilisateurs. Mais bon, on va dire l'idée, c'est d'avoir plusieurs populations qui n'ont pas les mêmes contraintes en termes de sécurité. Donc historiquement, quand on faisait un design Active Directory d'une architecture, eh bien, chaque fois qu'on avait ces contraintes de sécurité différentes, on faisait au sein de la même forêt un domaine différent. Désormais, avec 2008 R2, sur la partie AD, on peut avoir donc ces stratégies multiples et donc en créer plusieurs qu'on va affecter effectivement à des OU ou à des groupes. Et donc, du coup, ça permet également de simplifier les architectures Active Directory, peut-être de fusionner plusieurs domaines en un seul, lors, par exemple, de la migration ou post-migration vers 2012, 2012 R2 ou 2008, 2008 R2.
On avait aussi une petite fonctionnalité qui était assez sympathique, qui permettait d'éviter la suppression accidentelle d'objets. Suppression, par exemple, accidentelle d'OU, qui, malgré le caractère bête, qui peut sembler a priori, bah, ça a quand même arrivé chez un certain nombre de clients. Et puis, avouons-le, quand l'OU Europe est supprimée de manière accidentelle dans un groupe mondial, ça peut être relativement embarrassant comme situation. Donc là, on s'est dit, c'est pour éviter le dérapage sur le clavier, on va protéger des objets. On a la possibilité d'avoir un deny explicite sur la fonctionnalité de suppression d'un objet. Donc il faut vraiment le vouloir pour supprimer un objet à partir de 2008.
Exactement.
Réplication, on a la possibilité de passer du modèle de réplication FRS, donc pour le SysVol, qui est les stratégies de groupe. Donc c'est une réplication basée sur des fichiers FRS qui avaient un certain nombre de limitations, notamment sur des SysVol de grosse taille. On a la possibilité d'utiliser DFSR, donc la réplication fichier, enfin la réplication par bloc plutôt, qui permet d'éviter de répliquer 20 000 fois les mêmes choses. Puisqu'on fait du bloc, donc on compare, si on a des blocs qui sont similaires d'un côté, on évite de les retransmettre à nouveau sur le réseau.
Pas mal d'améliorations également sur la partie audit de sécurité, qui sont désormais beaucoup plus détaillées, beaucoup plus granulaires.
On a introduit GPMC par défaut,
qui était un outil à part.
Voilà. Et puis on a introduit cette notion de jonction, de jointure, je ne sais jamais comment on dit en français, de jonction au domaine hors ligne. C'est-à-dire que je n'ai pas de DC à un instant T, mais je peux déjà préparer un package pour pré-joindre, entre guillemets, ma machine au domaine de l'organisation. On a fait évoluer ça vers 2012, hein, d'ailleurs ce modèle de jointure au domaine, il était assez basique dans 2008 R2, dans 2012 on sait maintenant y joindre un certain nombre de GPO, un certain nombre d'autorités racines de confiance, ce qui permet d'aller un peu plus loin dans les scénarios, typiquement comme pré-remplir une machine pour aller faire direct access, pour aller vers un serveur VPN par exemple.
Alors dans 2012-2012 R2, pas mal d'évolutions également. Donc des évolutions, on va dire, purement administratives et des évolutions sur les usages dont Pascal va nous parler à la fin de cette slide. Donc première chose, pour les administrations, les administrateurs, on va dire plutôt les administrateurs délégués, on a désormais une nouvelle console d'administration qui s'appelle l'AD Administrative Center, qui est une console qui est en plus personnalisable et qui permet effectivement de faire les opérations de base souvent faites par les hotlines, genre les resets de mots de passe, la création rapide d'un utilisateur, etc.
Il y a beaucoup d'investissements en matière de virtualisation également dans 2012 VR2 pour être déjà bien supporter la virtualisation et en plus pour en tirer parti. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la virtualisation, en gros, on disait pour un contrôle domaine, désactive tous les avantages qu'il y a à faire de la virtualisation. Donc, un des avantages qu'il y a de la virtualisation, c'est de copier rapidement un fichier VHD pour créer un nouveau serveur à partir de ce modèle-là. Donc, on a introduit en 2012 une possibilité qui est de cloner un contrôle domaine à partir d'un autre. Ça évite d'aller récupérer à chaque fois les GPO, la base AD, etc. Là, on va juste prendre le VHD, le recréer à côté, mettre un nouveau nom pour le contrôleur de domaine, et puis il va être opérationnel, il répliquera que le delta via le réseau. Alors, c'est l'étape schématique, il y a quelques opérations intermédiaires pour préparer. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel DC, il faut avoir les droits et avoir préparé l'opération correctement. Mais c'est une possibilité technique qui est super intéressante. Et notamment, quand on pense à ça, on pense au scénario de disaster recovery aussi, repartir très rapidement d'une base. Autre avantage de la virtualisation, c'est son support avec ce qu'on appelle Virtualization Safe, ce qui permet d'éviter les problèmes d'inconsistance, de réplication, ce qu'on appelle les USN rollback, c'est-à-dire la perte, entre guillemets, d'index entre les contrôleurs de domaine, puisqu'ils se connaissent, en fait, ils connaissent les changements qu'ils font sur leur base en gardant un index du changement le plus haut qui a été commité sur la base. Donc si on applique un snapshot, par exemple, sur l'AD, on revient en arrière dans les numéros de série. Donc forcément, il y a un problème au niveau de la réplication. Donc ça, on savait le détecter au niveau de la réplication qu'il y avait un problème jusqu'à présent. Mais ça demandait une intervention de l'administrateur pour faire l'opération de recovery, c'est-à-dire une réinstanciation de la base sur le contrôleur de domaine qui avait appliqué un snapshot. Et avec 2012 R2, on sait faire cette opération qui est de réinstancier automatiquement la base parce qu'on détecte qu'il y a une incohérence. On repart et puis c'est le décès est opérationnel. Donc on gagne du temps.
Toujours pour les administrateurs AD, une petite fonction qui paraît bête et pourtant qui peut sauver beaucoup de temps, c'est la corbeille AD. Donc tu as parlé tout à l'heure dans les nouveautés 2008-2008 R2 de la protection accidentelle contre la suppression. Maintenant, des fois, on peut faire des suppressions d'objets parce qu'on ne les a pas protégés justement contre la suppression accidentelle. Et jusqu'ici, quand on supprime un objet, quand on s'apercevait que mince, j'ai supprimé un objet, et mince, je m'en suis aperçu après que la réplication se soit faite, la seule chose qui restait à faire, c'était d'aller chercher la bande ou le shell de restauration et de fin de restauration, en fait, de l'AD ou de l'OU, en fait, pour pouvoir récupérer cet objet. Ouais. Ce qui est clairement pas une tâche agréable à faire. Mm-hmm. Pour peu qu'on l'ait testé en plus avant, bien
sûr. Surtout si on ne l'a pas testé. Ouais.
C'est pas tant le table que c'est pas grave, c'est que ça prend du temps à aller rechercher le backup.
C'est pas agréable non plus.
Redémarrer, etc. etc. Et puis, nouveauté de R2, c'est qu'il y a une interface graphique pour la corbeille.
Voilà, parce que la corbeille AD, comme son nom l'indique, est une corbeille, comme vous connaissez la corbeille de fichiers sur Windows ou sur Mac, qui permet d'aller rechercher dans la poubelle, justement, la corbeille, l'objet qui aurait été supprimé. Alors, dans 2012, c'est tout en ligne de commande en PowerShell, mais au moins c'est récupérable. Mmh. Et puis dans 2012 R2, là c'est le Saint Graal. Cette fois-ci, graphiquement, on peut aller rechercher son fameux objet qu'on a supprimé.
On peut aller rechercher l'OU RH à voilà. La poubelle.
Même si on aurait pu la laisser. également, côté administration, on généralise, vous l'avez compris, depuis Exchange 2007, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'utilisation massive de PowerShell donc pour l'industrialisation de certaines tâches. Donc là encore, on peut créer et manager son AD tout en PowerShell, ce qui permet effectivement, par exemple, via différentes interfaces, de générer par exemple des comptes utilisateurs ou de remodifier des mots de passe, enfin de faire des opérations qu'on fait habituellement et qui ne sont pas pratiques à faire en lot souvent dans les interfaces graphiques. Là, on peut directement l'automatiser, non pas via des trucs genre ADSI ou des scripts un peu bizarres, mais directement via des PowerShell.
Et également de se connecter en ligne de commande à distance, notamment sur tous ces serveurs-core. Une interface graphique, on a également une option de les gérer en ligne de commande à distance.
Ouais. L'activation, Pascal, aussi des VM.
L'activation des machines virtuelles basées sur l'Active Directory, donc c'est une option supplémentaire. Auparavant, on n'avait que l'option KMS, ouais. Les serveurs KMS, ou l'activation avec des clés des types volume. Là, en plus, pour les environnements d'activation volume, on a la possibilité d'activer les machines sur l'AD, contre l'AD.
Ouais, petite précision, si on parle des machines post-clientes et on parle des machines qui sont sur du Windows 8 entreprise et ultérieur.
Une nouveauté de sécurité qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le Group Managed Service. Donc c'est un compte de service en fait, qui est managé automatiquement par le service ou par l'application. Donc c'est pour éviter les comptes de service avec le password never expires, qui est quand même relativement présent dans les organisations. Donc là, c'est l'idée que le service va automatiquement avoir la responsabilité de négocier avec l'EDC pour changer le mot de passe, faire tourner le mot de passe dans le temps et éviter qu'on ait un fameux mot de passe avec un compte qui potentiellement est un petit peu privilégié, qui soit toujours le même mot de passe.
Mais comme ça, des fois, le même mot de passe a des avantages. J'ai récemment un ami consultant qui est retourné chez un client où il n'était pas allé depuis 8 ans. Et donc, il n'avait pas le mot de passe d'admin de base. En fait, il a ressorti les mots de passe de ses documentations et s'est aperçu effectivement que ses mots de passe n'avaient pas changé en fait depuis 8 ans.
Absolument, puisque une documentation est effectivement l'endroit le plus approprié
pour mettre un mot de passe.
Pour stocker un mot de passe. Voilà. Alors, déclenchement d'application des GPO depuis GPMC. On peut aller cliquer sur une OU, sur des machines et dire voilà, toi, tu vas appliquer ta GPO, tu vas la rafraîchir maintenant.
Now.
Ça demande en fait d'avoir activé quelques opérations dans le firewall du poste destination, bien sûr, et ça demande d'avoir des machines qui sont en 2012 également à l'autre bout du truc pour comprendre l'opération, d'aller demander le rafraîchissement des GPO.
Donc, autre petite chose intéressante, un petit outil, enfin une petite modification de la GPMC qui permet de voir en fait la réplication des 6 vols.
Ouais.
Donc directement graphiquement et sans passer par un outil en ligne de commande, comme par
exemple. On utilise GPO Tool qui pouvait être un outil qui permet de voir ça, ou alors différents outils propres à AFRS ou à DFSR.
Voilà. Et effectivement, du coup, ça permet graphiquement de savoir si l'application se passe bien ou pas du 6 vols. Alors, pourquoi je dis qu'il est intéressant ? Parce qu'on a eu le cas, nous, en fait, où on est tombé sur des plateformes où, en fait, simplement en voulant tester ces outils, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de réplication et que des 6 vols n'avaient pas été créés sur des DC qui avaient l'air de fonctionner. Alors, dans les faits, finalement, ils ne fonctionnaient pas bien. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de savoir qu'il existe en premier diagnostic, on va dire.
Exactement. Pascal, quelques mots sur DAC.
Exactement. Une autre nouveauté, donc Dynamic Access Control, qui date de Windows Server 2012 et qui permet notamment un contrôle d'accès un peu plus élaboré, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement se baser sur les groupes auxquels on appartient, l'utilisateur appartient, on va se baser sur des claims ou des attributs qui proviennent notamment de l'Active Directory. Par exemple, j'appartiens à tel service et j'ai le droit d'accéder à ce fichier parce qu'il appartient au même service que moi. Donc c'est ce qu'on appelle des attributs, des claims. Et ces claims-là, en fait, ils viennent de l'Active Directory parce qu'ils sont véhiculés par les jetons Kerberos. Et à partir de Windows Server 2012, donc on a étendu le protocole Kerberos pour inclure ces claims dans les jetons Kerberos. Et d'autre part, on a également un jeton Kerberos combiné, enfin une authentification combinée machine et utilisateur, de façon à retrouver les claims machine et utilisateur dans le jeton de l'utilisateur.
Dernier point, le Workplace Join, Titarno.
Effectivement. On veut avoir dans un monde moderne des utilisateurs qui amènent leur machine, mais qui n'ont pas forcément envie de joindre leur machine, leur poste au domaine, parce qu'ils n'ont pas envie de récupérer tous les GPO de la boîte. Mais en même temps, s'ils ne le font pas, ils sont complètement inconnus de l'IT. Donc ce qu'on voudrait dire, c'est peut-être qu'on pourrait faire un truc entre les deux mondes, et se dire qu'on a des machines qui sont au moins connus de l'organisation, on sait à qui ils appartiennent dans l'organisation, on sait qu'ils ont tel utilisateur, que c'est telle machine, tel type d'OS dessus. Donc ils se connectent et puis en fonction de cette jonction qu'ils vont faire, entre guillemets, jonction à l'organisation, en échange, on va permettre de leur tirer parti de SSO sur leur environnement, sur leur serveur tablette pour accéder à un certain nombre d'applications. Donc c'est un petit peu un mode donnant-donnant où t'enregistres ta tablette dans l'organisation, je vais pouvoir connaître 2-3 choses sur cette tablette, pas grand-chose en réalité, mais je connais déjà son existence, son utilisateur, etc. Et puis en échange, on concède l'accès sécurisé à un certain nombre de choses de manière simple.
Il y en aura un audit également pour savoir tel accès a été effectué par tel utilisateur depuis tel appareil, parce qu'on l'aura authentifié par son certificat de Workplace Join également.
Yes.
Donc là, on voit que 2008, 2008 R2 plus, et 2012, 2012 R2, il y a quand même un paquet de nouveautés fonctionnelles qui globalement répondent déjà pas mal de besoins que vous avez probablement si vous êtes aujourd'hui dans un environnement type 2003, 2003, R2. Donc ça vaut le coup en plus de profiter de la migration qui est un peu imposée parce qu'on arrive sur la fin de support de 2003 R2 le 14 juillet 2015, mais il faut profiter pour vraiment utiliser les nouveaux bénéfices fonctionnels qui sont apportés par ces AD. Ce n'est pas juste migrer l'AD pour l'AD, il y a des choses sympas à utiliser à l'intérieur et qui peuvent également faciliter le travail de tous les jours.
Alors, une petite aperçu rapide de la migration de l'Active Directory. Bien sûr, c'est schématique, il y a beaucoup plus de détails à rajouter, mais Globalement, prérequis, il faut vérifier déjà que bah, l'environnement réplique bien, que tout est OK. Donc, des coups de répamine de tous les côtés, des coups de décédiag. On va dire, ça, c'est les éléments de base qui, normalement, doivent être assurés sur
c'est
votre domaine.
C'est le théorème du garbage in, garbage out.
Merci, Pascal, pour ces références.
Du coup, Wikipédia en post-vidéo.
Voilà. Prérequis globalement technique après, hein, une fois qu'on s'est assuré de ça, c'est que bah, le domaine, le niveau fonctionnel du domaine, soit en 2003 minimum. À partir du niveau de fonctionnel 2003 de domaine, ce qui est quand même pas un prérequis très très élevé à l'heure actuelle. Hein,
mais on peut trouver encore des AD qui sont en niveau 2000. Hein.
Ouais, notamment, on a trouvé notamment des utilisateurs qui avaient tout upgradé en 2003 et qui n'avaient pas pensé à faire l'upgrade du niveau de fonctionnel parce que c'est une opération qu'on doit aller faire. Donc on peut avoir tout migré en 2003, mais avoir encore un domaine qui se comporte en mode 2000.
C'est pas automatique.
Voilà, c'est comme...
Les antibiotiques.
Voilà. La première étape qui va constituer à faire cette migration, ça va être de se dire on va mettre un DC2012 en tant que serveur membre dans mon domaine et puis à partir de là, je vais lancer l'assistant de promotion qui n'est plus DC promo mais qui est un assistant nouveau et qui était particulièrement bien pensé par le groupe Rodi parce qu'il va permettre de s'assurer que tous les prérequis ont été qualifiés. Donc j'ai bien la bonne version de niveau fonctionnel, j'ai bien la bonne version de niveau de schéma, j'ai bien la réplication qui est opérationnelle à l'heure actuelle. Et donc, bah, le rôle, il va potentiellement être fait automatiquement. Donc, on va faire la mise à jour du niveau de forêt depuis ce serveur membre durant la phase de promotion. Et puis, il va être promu, mais il va être encore présent dans le domaine et agir en tant que serveur contrôleur domaine, comme si c'était un contrôleur domaine 2003.
Très important, il va falloir penser à transférer les rôles FISMO ou les flexible Single Master Operation, qui sont au nombre de 5. Nous avons donc le PDC Emulator.
Le Schema Master.
Le Read Master.
L'Infrastructure Master.
Et le
Domain Naming Master. Voilà, donc ils sont au nombre de 5. Il va falloir donc les déplacer, effectivement, des serveurs 2003 vers les serveurs 2012. L'opération, elle peut être faite graphiquement à travers les différentes interfaces ou plutôt en général, c'est plus simple de le faire directement en ligne de commande via une TDS utile. TDS utile, role, FSMO, et ensuite transfert ou sales si vous avez perdu les machines précédentes ou si vous les avez retirées un petit peu vite.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement ensuite essayer de se débarrasser le plus vite possible des serveurs 2003, supprimer les derniers serveurs, et puis une fois qu'on se sera débarrassé des serveurs qui fonctionnent en mode 2003, et on passera les modes opérationnels donc de domaine, potentiellement de forêt également, si c'est approprié, s'il n'y a plus d'autres domaines qui utilisent des vieux modes de fonctionnement.
Donc, idéalement, montez le taquet au maximum de ce que vous pouvez. C'est-à-dire, si vous avez des serveurs en 2012 R2 et que finalement tous vos DC sont 2012 R2, montez au niveau fonctionnel de domaine 2012 R2.
Ce qui permet de tirer parti de l'ensemble des fonctionnalités du produit.
Voilà, tout à fait. Donc, les rôles de Windows Server sur la partie Active Directory, globalement, quand vous allez migrer, on vous encourage sur la base la plus récente, donc serveur 2012 R2, avec un nouveau serveur ou une nouvelle machine virtuelle sur un hyperviseur, quel qu'il soit. Donc ça, c'est si vos machines sont dans votre environnement, dans vos data centers. Vous pouvez également, ça c'est une option, choisir de déployer ces nouveaux contrôleurs de domaine sous la forme de machines virtuelles et les faire exécuter sur notre plateforme de cloud public de type infrastructure de service, qui est Microsoft Azure. Deux options. Vous pouvez utiliser Microsoft Azure comme un site supplémentaire, notamment par exemple pour toute la partie PRA. Ou pour simplement avoir un contrôleur de domaine qui est externalisé, qui permettra au moins de sauver la forêt le jour où il y a un gros désastre dans votre data center.
Absolument.
DHCP, Arnaud ?
On continue cette revue des rôles de Windows Server, avec effectivement le rôle DHCP qui apporte un certain nombre de nouveautés depuis 2003. Si on se place d'ici du point de vue 2012-2012 R2, et un des gros aspects qui est intéressant, c'est effectivement l'attribution d'adresse par stratégie. C'est-à-dire globalement, si tu as telle adresse MAC, je te donne telle adresse IP avec tel paramètre spécifique. Si tu as tel suffixe DNS dans ta requête initiale, alors je t'envoie vers telle option de DHCP particulière. Ça permet de faire une petite ségrégation et puis d'optimiser comme ça les informations IP qu'on va donner à nos machines clientes. Ce n'est évidemment pas une fonctionnalité de sécurité pour dire je place toutes les machines de tel type à tel endroit et telle autre à tel endroit. C'est vraiment pour un petit peu donner les paramètres IP les plus appropriés à des machines. DHCP Failover qui permet en fait de créer un cluster DHCP sans monter de cluster, parce qu'on s'est rendu compte que le cluster, ce n'était pas la grande passion des admins réseau. C'était un petit peu plus complexe à mettre en œuvre que ça, mais on a dans DHCP des spécifications qui permettent de faire comme ça du failover entre plusieurs serveurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir que bon, on a deux serveurs qui sont actifs sur une étendue DHCP et qu'ils vont se partager des informations concernant les étendues, enfin concernant les étendues et les baux qu'ils ont attribués aux différentes machines. Et puis, s'il y en a un qui part en vacances pour appliquer des patchs, par exemple, et ben, l'autre continuera à renouveler les mêmes baux et les mêmes opérations DHCP telles qu'elles ont été issues par le premier serveur DHCP.
Donc là, effectivement, tu es dans le mode qu'on appelle actif-actif. Mm-hmm. On a également le mode actif-passif où on a un primaire qui va toujours répondre. Et s'il n'est pas disponible, ce sera le secondaire. En général, c'est mieux de prendre le actif-actif parce que comme ça, en plus, on répartit la charge sur deux serveurs.
Et également, quelques petites optimisations qui ont été faites. Donc, comme vous aimez les commandes PowerShell, eh bien, on vous en a shippé une poignée de plus pour le DHCP, pour faire toutes les commandes classiques via PowerShell. Et puis, toute petite optimisation, mais qui permet de libérer nos gens d'événements sur nos serveurs, qui permet en fait d'aller pas enregistrer les enregistrements de type pointeur dans le DNS. Et que c'était un gros générateur d'événements dans les serveurs DHCP et DNS. Le serveur DHCP va essayer d'enregistrer les enregistrements type A ou type quad A pour IPv6 dans le DNS. Et il va également tenter d'enregistrer les records inverses, les pointeurs. Donc aller enregistrer l'IP pour retrouver le nom. Et s'il n'y arrivait pas jusqu'à présent, bah, il allait loguer des événements dans le journal local de la machine. On a une petite option là qui permet de dire, écoute, t'embête pas, il n'y a pas de serveur qui permette de faire ça de toute façon localement, donc du coup, tu le fais pas et tout va bien.
IPAM, le, on va dire le futur remplaçant de cet outil qui se transmet de génération de stagiaire en génération de stagiaire.
Oui, la feuille Excel.
La feuille Excel.
La feuille Excel qui permet de gérer le réseau, hein, qui est encore une tradition présente dans de nombreuses organisations sur notre territoire. On a décidé d'offrir une console centralisée dans Server 2012, 2012 R2, qui permet effectivement d'aller chercher des informations sur la consommation de ces adresses IP, sur certes les serveurs DHCP, mais aussi les contrôleurs domaines, les serveurs Radius et les serveurs VMM. Donc là, la console IPAM, elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir en un seul point l'ensemble de ces informations qui sont consolidées et mises ensemble. Et puis aussi, elle va nous permettre de déléguer un certain nombre d'opérations sur le DHCP, qui était globalement quand même une zone d'amélioration assez notable dans le serveur DHCP des versions précédentes de Windows. Donc là, on va pouvoir simplement donner les droits à un utilisateur de se loguer sur une console IPAM et puis lui déléguer les droits de faire des opérations sur les étendues DHCP.
Donc en résumé, pas énormément de nouveautés sur le DHCP 2008 R2, mais c'est plutôt à partir de 2012 où on a commencé vraiment à voir des grosses nouveautés sur le DHCP. Donc ça vaut le coup, effectivement, si vous avez du DHCP 2003 ou 2003 R2 ou antérieur, de le migrer sur la nouvelle plateforme parce qu'il y a vraiment des choses qui sont bien.
Et puis en plus, pas de raison de s'en priver, puisque comme on va le voir dans quelques instants, c'est relativement simple. Alors, migration des services DHCP de manière schématique. En gros, effectivement, repérer les cartes réseau sur la source et la destination pour savoir qui broadcast quoi, hein, où est-ce qu'on est bindé pour ne pas aller broadcaster du DHCP là où on ne broadcastait pas avant. Donc bien repérer les cartes réseau sur la source et la destination, histoire de ne pas créer quelques petits conflit lorsqu'on va migrer et exporter la base vers le serveur de destination. Donc ensuite, on va prendre la config, l'exporter depuis le serveur source vers le serveur de destination. Sur la destination, on installe le service DHCP, on importe la configuration avec l'outillage que je vais vous montrer. Une fois que la configuration est importée, eh bien, on autorise le serveur dans l'Active Directory et puis on peut dire bonne retraite à l'ancien serveur DHCP.
Au revoir.
Exactement. Et eh bien, plutôt que d'en parler de manière théorique, on va regarder dans une petite démonstration à quoi ça correspond.
Bah c'est parti Arnaud.
Donc j'ai sous les yeux un serveur 2003 qui est également, enfin qui a pour rôle le service DHCP. Je vais aller voir ici que effectivement j'ai bien un certain nombre d'informations qui sont remplies. Donc j'ai créé une étendue tout simplement et puis j'ai un certain nombre de baux qui sont attribués à différents noms de machines. Hop, donc là c'est mon serveur source qui est du 2003. 32 bits. Je vais aller sur mon serveur de destination, qui est un serveur Windows Server 2012 en 64 bits. Alors, j'ai déjà fait quelques petites étapes juste dans les secondes précédentes pour installer la fonctionnalité de migration, installer les outils de management DHCP, j'ai stoppé le serveur DHCP.
Donc là, tu es en train de générer ton package pour un OS 2003 sur plateforme 32 bits.
Voilà. Et je lui dis, tu vas me positionner tout ça dans... c'est temp. Donc on lance l'exécutable et puis il nous dit voilà, vérifie les prérequis sont bien matchés, effectivement, SMIC deploy est copié dans c'est temp. Windows Server 2003, x86. Hop. Donc là, bah, l'étape suivante, hein, tu l'as deviné, c'est d'aller se connecter sur mon serveur 2003 en copiant l'ensemble de ces binaires. Donc c'est ce que je vais faire de ce pas. Je vais ici sur mon serveur DHCP source. J'ai déjà copié hein, les binaires ici, donc je vais aller dans ma machine, je l'ai mis dans SMT et puis je vais lancer simplement hop, SMIC deploy.exe qui quand on le lance pour la première fois en fait va aller enregistrer dans les outils d'administration cette console.
Et on puis va voir. Le snap-in pour PowerShell.
Exactement, donc là on va voir que...
Qui contient l'ensemble des commandes.
On a ça qui est exploité et c'est exactement... Voilà. Par ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir préparer mon package de migration. Donc effectivement, le contexte est déjà préparé. Donc je peux faire du export SMIC server setting slash feature ID, je lui mets c'est du DHCP. Tu prends les informations concernant les comptes utilisateurs présents sur la machine. Également les groupes. Tu prends.
Moins groupe.
Ah, oui, effectivement. Petite erreur de typo. Moins groupe. Moins. IP config, parce que je prends la configuration IP de ma machine, et puis ici, je spécifie hop, le pass, donc qui sera situé sur VM number 07 slash $ slash temp. Donc là, en gros, on lui dit tu prends la fonctionnalité DHCP, tu prends tout, y compris la configuration IP de ton serveur, et tu vas exporter ça dans un chemin réseau distance. Ça va être un chemin réseau distance pour exporter l'ensemble des paramètres ici de ma configuration. Petite chose qui nous demande le mot de passe pour protéger les secrets qui sont potentiellement stockés dans ce fichier, évidemment. Hop.
Un mot de passe qui sert à chiffrer sur le réseau, à chiffrer le transfert sur le réseau et le package à l'arrivée.
Yes. Alors une fois qu'on a ça, on dit bon, bah, ok, pas de problème. J'ai pas pu récupérer les informations de configuration IPv6. Ceux du 2003, c'est pas très handicapant, hein, cela étant. Hop, donc là tu vois, j'ai bien récupéré la fonctionnalité DHCP, les informations concernant l'utilisateur et les groupes, la config IP, la configuration globale du serveur DHCP. Hop, et bien j'ai envie de dire que le travail a l'air bien parti. Je vais retourner sur mon serveur de destination, ici. Et normalement, dans temp, tu vois que là, j'ai
le package.
J'ai le package de migration. Donc là, c'est un petit environnement, il prend que quelques kilos. Donc je vais retourner sur mon serveur 2003. Là, je vais lui faire un add ps snapping. Et là, je vais lui spécifier l'outil de migration. Donc Microsoft Windows Server Manager. Migration. Et puis, pardon, c'est là que je vais spécifier l'import de mon fichier. Donc, ben, de la même manière que tout à l'heure, hein, mais dans l'autre sens, import SMIG server setting feature ID DHCP user all group-force. Là, je spécifie le chemin, donc passe, c'est dans
c2.temp
et on lui met une petite sortie en mode verbose histoire de voir ce qui est en train de se passer. Ça a l'air correct comme syntaxe, hein, a priori. Mm-hmm. Tu remarqueras que là, je n'ai pas importé la configuration IP de mon serveur parce que ça ne m'intéressait pas. Je dis je promeux un nouveau serveur DHCP, la configuration IP de mon serveur DHCP ne m'importe pas. Mais si je veux faire une migration où je remplace, je décommissionne mon ancien serveur, où je l'ai déjà mis offline, ben là je peux mettre l'adresse IP et puis là il va récupérer tout, y compris l'adresse IP, donc il va rebooter et puis il aura une toute nouvelle adresse IP. Petite astuce, si vous faites ça dans Hyper-V, n'oubliez pas d'activer la case de spoofing de MAC adresse. Parce qu'au bout d'un moment, une adresse IP qui change comme ça et d'un endroit à l'autre, le serveur Hyper-V peut ne pas apprécier. Alors là, il nous demande le même mot de passe qu'on a mis tout à l'heure à la phase d'export. Et là, il est en train de faire la phase d'import, récupérer les données. Donc là, il me dit voilà, éventuellement, il y a un certain nombre de groupes que j'ai déjà présents en local de par la configuration. Donc, pas de souci. On va pouvoir aller voir dans la console DHCP ici, hop, DHCP-MGMT.msc. On va pouvoir aller voir effectivement que j'ai mon serveur local, donc c'est VM Member, hop, qui est déjà présent ici, 0.7. Je vais lui démarrer le service DHCP, puisque je l'avais éteint tout à l'heure dans mon étape de migration. Et puis, je devrais normalement, si tout s'est bien passé, pouvoir voir les informations concernant mon étendue. Donc, l'étendue est déjà là. Et puis, j'ai bien les baux qui ont été récupérés comme défini sur ma configuration initiale. Bon, là, c'est évidemment simple dans cet environnement-là, puisque j'ai que des réservations dans mon environnement. Mais ça marche évidemment sans problème dans l'environnement de prod avec des vraies étendues DHCP bien complètes. Voilà une migration assez rapidement.
Une migration comme on aimerait voir
plus souvent.
Exactement. Eh bien, nous avons fait le DNS, l'AD, le DHCP.
Continuons d'explorer quelques...
Le serveur de fichiers, peut-être, maintenant.
Donc, effectivement, Stan, on va commencer par regarder les nouveautés du serveur de fichiers depuis Windows Server 2008. Avant de regarder comment on va migrer les serveurs de fichiers et puis vous montrer une petite démonstration également de comment ça se passe, un peu sur le mode du DHCP que vient de faire Arnaud. Donc au niveau des nouveautés des serveurs de fichiers depuis Windows Server 2008, on a des améliorations déjà au niveau de DFS, au niveau de la réplication, de la gestion par PowerShell, du modèle WMI pour aller gérer DFS, etc. Donc déjà pas mal de choses, sachant que la migration, on va le voir, de DFS va être assez simple et ce n'est pas ce qui va nous poser le plus de problèmes. Deuxième famille d'amélioration, donc les workfolders, qui est une fonctionnalité un petit peu liée de façon connexe à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Active Directory, le Workplace Join, etc. C'est encore un scénario de type Bring Your Own Device. C'est une extension du serveur de fichiers qui nous permet d'accéder à des fichiers sur un serveur de fichiers par HTTPS. Donc c'est un nouveau protocole d'accès en fait à des partages de fichiers, un nouveau type de partage de fichiers qui permet d'aller faire en fait de la synchronisation de fichiers entre différents appareils. J'ai mon PC du travail, dans le domaine, etc. Je travaille sur mes documents. À la maison, j'ai un PC personnel. Je peux synchroniser mes fichiers entre mon PC de travail et mon PC à la maison via ce serveur de fichiers, ce nouveau type de share qu'on appelle des sync share, des partages synchronisés sur le serveur de fichiers. Donc plutôt sympathique pour des bring your own device. Le Dynamic Access Control, j'en ai parlé tout à l'heure pour l'aspect Active Directory, Kerberos, etc. Ça a également un aspect côté serveur de fichiers, puisqu'on va trouver sur nos serveurs de fichiers de la classification automatique et des tâches avec un extenseur complexe, hein, de gestion de fichiers de type ADRMS, par exemple. Périodiquement, je vais regarder si j'ai des fichiers classifiés confidentiels défense et je vais leur appliquer des templates RMS, des modèles de protection RMS pour les chiffrer de façon à éviter les fuites à l'extérieur, par exemple. Plus une notion d'assistance sur accès refusé. Avec les nouveaux types de contrôle d'accès, je peux avoir des accès refusés sans bien comprendre pourquoi. Souvent, parfois, pour les utilisateurs, ça peut être un petit peu obscur. Donc, on leur propose, lorsqu'ils n'ont pas accès à un fichier sur un serveur de fichiers, une information qui leur permet de contacter le support pour demander des informations.
Au-delà du traditionnel accès refusé, là on rajoute le « vous pouvez contacter telle personne ».
Plaignez-vous à telle personne, par exemple. Enfin, au niveau d'administration, donc évidemment, on est dans une génération 2012-2012 R2, donc du PowerShell partout. On peut tout faire en PowerShell. Un nouveau serveur manager, donc l'intégration dans le serveur manager de Windows Server de tout ce qui est gestion des partages de fichiers, comme on va le voir. Et puis, un nouveau Resource Manager qui permet de gérer tout ce qui est classification automatique, tâches de gestion de fichiers, RMS, etc., etc.
Alors, nouveau serveur de fichiers égale souvent nouveau protocole de communication entre les clients et les serveurs. Le protocole historique, c'est SMB, notre implémentation de CIFS. Et on a mis pas mal de petites choses dans 2012 avec SMB 3.0 et dans 2012 R2 avec SMB 3.0.2. Attention, la nuance est fine, mais elle existe.
Bah, notamment au niveau des serveurs de fichiers, hein, on supporte des architectures, ce qu'on appelle le Scale-out File Server, qui va permettre effectivement de faire un serveur cluster de fichiers actif-actif. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'opérations dès le protocole qui sont intéressantes pour optimiser ces types d'accès aux données. Au niveau de SMB, des changements fondamentaux également, hein, pour passer d'un nœud à l'autre d'un cluster de serveurs de fichiers, on a maintenant un failover qui est transparent, c'est-à-dire qu'on va partager la liste des handles entre les différents systèmes. Du coup, en fait, on n'aura pas besoin de renégocier complètement l'ensemble des opérations SMB, donc on économise un certain nombre de transactions SMB pour repartir plus rapidement sur un partage de fichiers quand on bascule d'un nœud à l'autre du cluster. Le multicanal et le RDMA, ça nous permet également d'être plus performants et vraiment d'aller dans une optique où le serveur de fichiers est hautement disponible et fournir entre guillemets une espèce d'accès au serveur de fichiers par différentes cartes réseau si j'ai différentes cartes réseau qui sont installées sur la machine.
On va dire que pour les gens du stockage réseau, on va dire que le SMB multicanal, c'est une sorte de MPIO, mais à l'échelle du protocole SMB en fait.
Je n'osais pas sortir le nom, mais effectivement, c'est directement de ça qu'il s'agit. Hein. L'idée, c'est qu'une machine va pouvoir, un client va pouvoir aller discuter avec un serveur SMB et puis on va lui donner comme référence une première carte réseau. Et puis dans la négociation SMB, il y aura une deuxième carte réseau qui sera proposée si jamais elle est installée sur le système. Et ça aura la possibilité d'effectivement avoir un failover si jamais j'ai un échelon réseau qui tombe, mais aussi d'avoir l'accumulation, l'agrégation de la capacité des deux liens. Donc si j'ai deux cartes réseau 1 gigabit, par exemple, je saurai tirer parti des deux cartes réseau 1 gigabit sans rien faire grâce au multicanal.
Une petite fonction intéressante, et tu reviendras sur le SMB direct peut-être juste après, hein, c'est le chiffrement SMB. Désormais, on sait que le SMB est un protocole qui est en clair par défaut, donc la communication qu'il y a entre un client et un serveur, potentiellement, peut être interceptée sur le câble, et donc du coup, on peut récupérer l'information. Ouais. Toute une personne malveillante pourrait récupérer l'information ou une organisation malveillante. Jusqu'ici, traditionnellement, notre réponse à cette problématique du passage en clair de données dans le protocole TCMB, on y répond d'ailleurs encore en disant si vous voulez protéger les échanges, vous faites de l'IPsec entre le client et le serveur. IPsec a cette beauté d'être très très fin en termes de configuration et de permettre en fait de bien protéger les informations qui circulent, parce qu'on va chiffrer effectivement les communications. Son petit défaut, c'est que pas mal de gens ont un petit peu peur de l'implémenter parce que ça nécessite effectivement quelques connaissances sur le sujet et en général, des fois, un petit peu de cryptographie ou de gestion de certificats. Ce qui fait que dans la réalité, finalement, on a assez peu d'organisations qui osent franchir le pas, même si une fois qu'il est franchi, honnêtement, c'est vraiment super bien. Et du coup, on a toujours cette problématique de alors, si on ne veut pas faire d'IPsec mais qu'on veut chiffrer les communications, comment on fait? La réponse, en fait, elle est là, elle est SMB 3.0 minimum. Donc c'est-à-dire client Windows 8 avec des serveurs en 2012 minimum. Et du coup, on a une fonction qui permet de simplement dire, quand on crée un partage, dire ce partage sera protégé par des communications chiffrées et le payload en fait, de SMB sera chiffré avec des échanges clients et serveurs.
Yes, juste un mot sur SMB Direct, hein, c'est la possibilité d'utiliser des cartes réseau très puissantes, donc avec une latence faible et une très grosse bande passante pour pouvoir faire du DMA à distance à travers le réseau. Donc l'idée, elle est qu'une fois que j'ai négocié une connexion SMB avec mes machines, que je suis sûr que j'ai les bonnes capacités hardware des deux côtés, mais je vais passer plus par une encapsulation complète SMB, mais par un échange de buffer machine à machine en utilisant des sockets. Donc beaucoup plus efficace sur les échanges sur le réseau, parce que je suis sûr que j'ai les prérequis nécessaires pour faire une communication à haute performance.
DMA, hein, Direct Memory Access, et donc RDMA.
Remote. DMA.
Voilà, c'était pour la petite précision, quand tu sais que nous aimons être pointus.
Aimons bien les points sur les i.
Dernière nouveauté de SMB 3.0.
L'élection de la bande passante, hein, puisqu'on va mettre plein de choses sur SMB maintenant. Ce qu'on veut, c'est hiérarchiser un petit peu tout ça et dire que, tu vois, par rapport à des utilisateurs qui viennent consommer un fichier sur un serveur de fichiers ou par rapport à une machine virtuelle qui est en train d'être exécutée en live, puisqu'on a vu qu'on peut supporter une VM qui est exécutée à distance sur un serveur de fichiers, ce serait peut-être intéressant que la VM n'ait pas d'interruption dans ses IO. Alors que l'utilisateur, il peut peut-être attendre une seconde en plus pour son fichier board qui arrive, mais la VM, elle ne peut vraiment pas attendre. Il faut qu'elle soit exécutée. Je récupère ma voix et du coup, on a une commande PowerShell dans 2012 R2 qui permet de mettre un petit peu d'hierarchie dans ces types de flux SMB.
Donc, on revient à notre rôle, serveur de fichiers, sur notre, parmi la, notre panoplie de rôles Windows Server qu'on va vouloir migrer. Et les options qu'on a donc, pour notre serveur de fichiers, c'est première option, migrer donc, vers un nouveau matériel ou un hyperviseur, donc un nouveau serveur matériel, mais ce sera plutôt aujourd'hui, hein, c'est un petit peu la tendance quand même de mettre ça dans des machines virtuelles sur un hyperviseur, Hyper-V ou autre, voire de mettre tout ça dans du IaaS de Microsoft Azure, c'est-à-dire une machine virtuelle cette fois-ci hébergée dans le cloud public Azure. Et puis, troisième option, avec les appliances de type Store Simple, de stocker nos données qui étaient historiquement sur des serveurs de fichiers, sur ces appliances qui présentent l'avantage de faire une hiérarchie dans le stockage des données les moins utilisées aux données les plus utilisées, en privilégiant donc les accès rapides pour les données les plus chaudes, entre guillemets, pour les plus utilisées, voire d'étendre ce modèle-là avec Microsoft Azure Storage et donc d'avoir une, un archivage dans, dans du stockage dans le cloud.
Donc la Store Simple, c'est une appliance principalement SAN, donc vous allez pouvoir faire comme d'habitude un cluster de fichiers, raccorder cette appliance en target avec le protocole ISCSI, donc qu'on va utiliser du câble Ethernet, hein, basiquement derrière. Et effectivement, on va avoir un système de trois tiers. SSD, les données fréquemment utilisées. Les données un peu moins fréquemment utilisées sont sur des disques d'or magnétique. Et les données archivées ou qui commencent à prendre la poussière, elles seront déportées automatiquement et chiffrées sur du stockage public Azure. On est vraiment entendu ce qu'on appelle du CIS, Cloud Integrated Storage, où l'idée, effectivement, c'est de profiter du meilleur des deux mondes et d'avoir cette sorte de capacité extensible en fait, de la solution de stockage sans avoir à racheter continuellement des disques. En fait. Basiquement, c'est ça.
Et voilà. Donc
et c'est vendu par Microsoft, en plus.
Plus de choix grâce à la migration. Donc, comment ça va se passer pour notre migration des serveurs de fichiers? Dans l'optique, je migre vers un serveur, un nouveau serveur du type Windows Server 2012 R2. Donc, comme on a vu déjà dans l'introduction, dans la première vidéo et dans la démonstration sur DHCP, on va utiliser les outils de migration qui sont inclus dans Windows Server 2012 R2. Pour cette migration spécifique du rôle serveur de fichier, il va falloir transférer le fichier de l'ancien serveur au nouveau serveur. Ce fichier, avec ces outils-là, ce transfert, pardon, avec ces outils, va se faire sur un port UDP et TCP particulier, qui est le port 7000. Donc, il va falloir ouvrir ce port sur le serveur destination, donc notre nouveau serveur de fichiers. Il va falloir évidemment également vérifier l'espace disponible sur le serveur cible. Ça, cela va sans dire. Hein. Si on a 1 Tera à migrer, il faudra minimum 1 Tera sur le serveur cible. De préférence, utiliser les mêmes lettres de lecteur sur les volumes cibles. Je dis de préférence, on peut toujours se débrouiller si on ne peut vraiment pas, mais ça simplifie quand même les processus de migration si on garde exactement les mêmes typologies, les mêmes structures de lettres de lecteur. Et enfin, interdire l'accès des clients sur le serveur cible pendant la migration. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de vérifier si on a des clients connectés. Et puis, le cas échéant, d'arrêter le service file server sur le serveur cible. Donc, on a deux cas de migration possibles. Soit on va migrer des espaces DFS, donc qui sont répliqués sur plusieurs machines, soit des partages simples de données. Pour les premiers, pour les espaces DFS, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On pourrait penser que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais en fait, non, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit pour migrer du DFS d'inclure notre nouveau serveur de fichiers, notre nouveau serveur 2012 R2, dans la réplication DFS existante. Donc, en fait, on va créer un share, on va l'intégrer, enfin, on va créer un réplica DFS sur notre nouveau serveur et laisser faire la réplication naturelle.
Ça rappelle un petit peu pour la migration de l'Active Directory où, effectivement, on rajoute un DC et on attend que l'application se fasse pour supprimer doucement les anciens.
Tout ce qui est réparti, c'est un peu le même principe. Donc, ça va être assez simple. Pour les partages, maintenant, qui sont simplement installés sur un serveur de fichiers, eh bien, on va utiliser nos outils de migration de Windows Server 2012 R2, à partir desquels on aura généré le package pour Server 2003 et installé le package sur le serveur source. Et puis, on va utiliser deux commandelettes. Donc, du côté du serveur source, une commandelette qui s'appelle send smic server data et de l'autre côté, receive. On envoie, on reçoit et le transfert se fait par le réseau. Donc, le mieux, hein, c'est que je vous montre directement dans une démonstration comment ça se passe. Donc, j'ai ici mon serveur de destination. Donc, il s'agit d'un serveur de fichiers Windows Server 2012 sur lequel on a déjà installé le rôle serveur de fichiers.
On a installé également l'outil de migration tel qu'on en a déjà parlé et c'est tout. Donc on voit ici dans l'interface de gestion du serveur de fichiers qu'on n'a aucun partage qui a été créé sur ce serveur. Maintenant, si je regarde mon serveur source, qui est un Windows Server 2003 R2, j'ai cette fois-ci un serveur de fichiers sur lequel j'ai différents partages. Donc on voit notamment que j'ai trois partages ici, Engineering, Marketing et Sales, qui se trouvent tous dans le même sous-répertoire, qui est le répertoire C2.shares. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais migrer toutes les données de ce répertoire shares et ça va automatiquement migrer l'ensemble des partages qui sont hébergés sous cette arborescence. Donc ça va être assez pratique. L'autre, public, c'est un DFS, donc on a vu qu'on allait le gérer d'une façon différente. Donc, sur mon serveur source, je peux aller lancer ma ligne de commande PowerShell. Ça se passe dans Administrative Tools, Windows Server Migration Tools. Et j'ai là ma ligne de commande PowerShell avec l'outil, avec le snap-in des outils de migration déjà préinstallés. Donc je vais garder ça de côté et je lancerai la commande une fois que j'aurai fait les premières configurations de mon serveur destination. Donc sur mon serveur destination, la première chose à faire, c'est en fait d'ouvrir ces fameux ports 7000 UDP et TCP. Donc je ne m'embête pas, j'ai pris les commandes PowerShell pour ouvrir ces ports-là, plutôt que d'aller dans la surface graphique, ça va être beaucoup plus simple. En tout cas, pour scripter l'opération, ça va être plus simple.
Oui, pour la scripter. Sinon, honnêtement, ce n'est pas très long non plus. De
si je le fais une fois, je le fais en graphique. Si je le fais deux fois, je le fais en PowerShell. C'est la règle d'or à garder en tête.
Et trois fois, tu le fais en GPO.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Donc là,
merci
j'ouvre
de cette
ports.
Petite précision, Arnaud, car souvent, comme ça, on pourrait le laisser s'emballer et nous faire du script PowerShell à tire l'arigot.
Et bien sûr, alors qu'il y a des GPO pour ça.
Bien sûr.
Je vais également en profiter pour charger le snap-in contenant les modules, les commandes PowerShell pour mon outil de migration. Et puis je vais vérifier également que je n'ai aucun client qui est connecté à mes partages de fichiers sur mon serveur. Ce serait étonnant puisque je n'ai pas de partage de fichiers déjà sur ce serveur qui est nouveau. Mm-hmm. Et puis je vais mettre dans mon presse-papier la commande que je vais exécuter, receive simic server data, dans quelques instants. Dès que j'aurai envoyé la commande send de l'autre côté.
Donc, il faut d'abord faire la send, puis la receive.
Exactement. Donc send smic server data. Vous voyez que j'ai aussi mon pense-bête dans mon bloc-notes des deux côtés. Donc que fait cette commande? On lui dit qu'on va envoyer vers l'ordinateur FS2, donc qui est mon nouveau serveur 2012 R2, donc mon serveur cible. Mm-hmm. La source, c'est mon répertoire shares, avec une récursion dessous pour être sûr de prendre tout ce qu'il y a dessous. Et puis, je vais spécifier un répertoire de destination sur mon serveur de destination, qui est également C2.shares. J'inclus tout et je force au cas où il y ait des conflits quelconques de fichiers sur mon serveur de destination. Je fais return.
Donc, si tu fais un force, si par hasard, il y a déjà des choses qui existent, elles sont écrasées.
Si les shares existent déjà avec les mêmes noms, on va les refaire. D'accord. On va les écraser. Donc pareil que pour le DHCP, je mets un petit mot de passe pour chiffrer mes données sur le câble et sur mon serveur de destination.
Le célèbre mot de passe secret. Mmh.
Secret et complexe à la fois. Et là, je fais un receive du côté du serveur de destination. Je tape mon mot de passe. Et là, le transfert va se faire sur le port 7000.
Sous nos yeux.
Et on voit que j'ai vraiment une configuration minimale pour une démo. Hein. Ça devrait durer quelques heures sur une vraie prod.
Qui dépendra, pas changer la mule. Hein.
Voilà, qui dépendra effectivement de la bande passante réseau disponible, des sous-systèmes maillot disque derrière, etc. En général, la destination ne devrait pas être le facteur limitant. Ce sera plutôt la source en général.
Sinon, c'est que effectivement.
Sinon, c'est qu'on a un problème. Mais effectivement.
Donc, on peut vérifier ici que j'ai bien mes trois partages qui ont été créés, engineering, marketing et sales, et que si je regarde, par exemple, dans le répertoire shares engineering, j'ai bien des fichiers qui ont été copier. Il s'agit de tout petits fichiers pour la démo.
Les droits sont également copiés ?
Les droits sont copiés. J'ai copié l'ensemble des données. Quand on dit qu'on copie tout, on copie également les ACL sur les fichiers et les permissions sur les partages. Les deux niveaux de permissions.
Tu veux dire qu'on n'a plus besoin de sortir le subinacl.exe ?
Ce qui est bien dommage, mais
non, ce n'est pas dommage, c'est quand même
simple. Je pense que personne ne regrette la syntaxe de subinacl. Hein.
Merci Pascal. Donc, on a vu déjà le DNS, l'Active Directory, le DHCP, les serveurs de fichiers. Il nous manque le petit dernier dans ce cours qui est déjà un peu long, mais relativement riche.
C'est les serveurs d'impression. Donc, le petit frère du serveur de fichiers, le serveur d'impression. Donc, quelques nouveautés qu'on peut citer par rapport à Windows Server 2008, par exemple. Le Branch Office Direct Printing, BODP, qui permet d'aller d'imprimer. Qui permet de faire en sorte que lorsqu'on imprime sur une imprimante qui est dans notre agence, on ne passe pas par le siège. C'est plutôt intéressant dans une architecture branch office. L'assistant de migration qui existe, qui fonctionne maintenant pour les imprimantes de type WSD, Web Service Device, qui sont de plus en plus répandues. La préparation de tags NFC pour les imprimantes partagées. Ouais, on sait qu'avec Windows Server 2012 R2, on peut s'appairer à une imprimante grâce à un tag NFC. La préparation de ces tags peut se faire directement depuis le serveur de fichiers Windows Server 2012 R2, serveur d'impression, pardon. Le support des impressions protégées par des codes PIN. Et puis la journalisation des utilisateurs d'un serveur d'impression ou de fax. Au niveau de la migration, rien de très compliqué. On est encore dans un cas assez simple qui est prévu par les outils d'administration standard, puisqu'il suffit en fait d'utiliser l'outil intégré de gestion du serveur d'impression pour exporter la configuration et la réimporter sur le nouveau serveur d'impression. Donc tout ce à quoi il faut faire attention, c'est la disponibilité des pilotes d'impression en fonction des imprimantes qu'on utilise. Si on a des vieilles imprimantes, on peut avoir des soucis pour retrouver des drivers modernes pour des anciennes imprimantes.
Et c'est là, en général, qu'on va commencer un petit peu à dévier du cadre simple de la migration, parce qu'on va traiter des cas à part qui peuvent se généraliser.
Exactement. Donc, c'est pas la peine de s'attarder trop sur ces étapes de migration d'un serveur d'impression. Hein. Il faut simplement utiliser le gestionnaire de serveur pour aller exporter, utiliser les fonctions d'export pour exporter la configuration, d'import de l'autre côté pour importer la configuration du serveur d'impression. Rien de très méchant. Au niveau des applications tierces.
Alors, applications tierces, c'est-à-dire en gros, pas proposées par Microsoft. Donc, si vous avez d'autres fournisseurs pour la sauvegarde, l'antivirus, applications X, Y ou Z, l'idée, effectivement, c'est de désormais les héberger sur une plateforme moderne sur base de Windows Server 2012 R2. Donc soit sur du nouveau matériel dans le cadre d'un serveur physique, soit sur une machine virtuelle hébergée, exécutée au-dessus d'un hyperviseur, quel qu'il soit. On peut également mettre ces applications métiers, applications tierces, dans une machine virtuelle qui cette fois-ci sera hébergée dans du cloud public, une infrastructure de service telle que Microsoft Azure. Autre option, certaines applications peuvent ne pas être dans leur nouvelle version directement embarquées dans une machine physique ou virtuelle, mais on peut directement les positionner sur une plateforme de service, donc un socle applicatif destiné à les recevoir. Je pense globalement à beaucoup d'applications web qui effectivement n'ont pas besoin derrière d'avoir tout un Windows, etc., mais peuvent s'appuyer sur un socle à base de serveur web plus base de données. Dans ce cas-là, on s'appuiera sur Microsoft Azure, avec l'énorme avantage effectivement de ne payer qu'à la consommation de ressources, à la différence d'une machine virtuelle qui va tourner de toute façon 24 heures sur 24 le plus souvent. Dernière option, et pas des moindres, utiliser une solution, nouvelle version d'une solution, mais cette fois-ci en mode software as a service, donc dans le cloud et prêt à l'emploi, qu'on va payer généralement à l'utilisateur et au mois. Exemple, on a une vieille messagerie, je ne sais pas, Novell ou Lotus, etc. Ça peut arriver, hein, il y en a encore, plus beaucoup. L'idée, c'est qu'on profite également de la modernisation pour migrer vers une plateforme moderne, tel que Office 365, où on a un ancien outil de gestion d'inventaire de parc, plus de télédistribution, eh bien on se dit, bon, on va prendre Microsoft Intune pour faire la télédistribution, l'inventaire, et là encore, c'est une solution de type software de service, un ERP, etc., etc. Voilà, c'est un peu l'idée derrière, c'est d'en profiter également de la migration pour peut-être repenser certaines applications dans des modes un peu plus modernes et plus souples à l'emploi, parce qu'il y a certains cas où c'est peut-être plus intéressant d'avoir la plateforme externalisée, bien sécurisée et accessible depuis n'importe quel point dans le monde, plutôt que d'avoir un nouveau serveur qu'on va exposer avec toutes les contraintes de DMZ, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, les migrations, quelles qu'elles soient, vous allez avoir différentes options. La première, c'est de migrer tel quel. Donc là, c'est le cas idéal. C'est, vous avez une application qui peut être réinstallée, réexécutée, sans rien avoir à faire sur un nouveau système d'exploitation Windows. Donc vous passez, par exemple, d'un 2003-2003 R2, vous la réinstallez sur un 2012 R2 et ça marche. Génial. Ça, c'est le rêve. Malheureusement, les rêves ont leurs limites. Donc des fois, ça ne marchera pas, il faudra trouver une solution alternative, mais qui répond au même besoin. Donc là, on est vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que l'application, elle ne fonctionne pas sur le nouvel environnement. L'éditeur a fermé. Le stagiaire qui l'a conçu est parti depuis très longtemps et ne va pas tarder à arriver à la retraite. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc il faut trouver une solution alternative, en gros, qui répond aux besoins business derrière, s'il y a vraiment un besoin là-dessus. Et donc l'application pourrait être soit une application à réinstaller sur une machine, soit une application type software de service. On peut également avoir une application, soit une application métier, où il va avoir besoin d'un petit peu de modification pour la faire fonctionner sous le nouvel environnement, parce qu'à l'époque, ça utilisait des composants très spécifiques, il fallait que ça marche avec, je sais pas, IE6, avec telle version de la DLL, etc. Donc dans ce cas-là, il va falloir réparer le code, ou alors le réécrire dans le pire des cas, voire le réusiner un petit peu. Donc là, l'idée, c'est vraiment de modifier l'application pour la faire fonctionner sur cette nouvelle plateforme. Alors, on a également l'option, on nous parle parfois d'option de virtualisation applicative, où l'idée, effectivement, c'est de dire, mon application, elle tourne avec, par exemple, telle machine virtuelle, telle JVM, mais dans mon nouvel environnement, cette JVM n'est pas compatible. L'idée, c'est de faire utiliser des mécanismes de bulles applicatives dans lesquels on va pouvoir isoler, par exemple, ces dépendances un peu particulières. On peut même aller jusqu'au container, dont le but, effectivement, d'avoir des choses isolées avec des dépendances à l'intérieur. Bon, en gros, l'idée, c'est de virtualiser, de mettre dans une bulle qui est indépendante un petit peu de la plateforme de réception qui va être Windows Server 2012 R2. Dernière option, souvent la plus simple, c'est de mettre à jour, parce que normalement, si le fournisseur de votre application, considérant que ce n'est pas une application développée en interne, existe encore, il a probablement déjà fait des mises à jour de son application pour un environnement plus moderne. Alors, plus moderne que 2003 R2, on ose l'espérer. Si son application ne fonctionne pas déjà sur du 2008 ou du 2008 R2, je pense que vous pouvez quand même penser, là, cette fois-ci, à chercher une solution alternative, car ça veut dire que l'éditeur n'est pas très moderne ou est plutôt bien ancré sur des OS archéologiques. Conclusion ?
Eh bien, vous l'avez compris, une migration, on planifie ça avec le plus de temps possible. On prend toutes les étapes préliminaires desquelles on vous a discuté. Alors, ce cours MVA a permis de un peu vous mettre le pied à l'étrier pour les rôles d'infrastructure. On a vu qu'il y a tout un ensemble d'outils qui sont déjà présents dans la boîte et qui permettent d'envisager cette migration de manière plutôt sereine. Mais c'est qu'un début. Et puis tu nous as découvert un petit peu ça, Neva, l'ensemble des possibilités sur les couches supérieures. Donc c'est pas un projet mince. Il y a beaucoup de bénéfices à en tirer, des avantages de la plateforme et des avantages de nouvelles applications. Mais tout ça, ça se prépare pour en tirer bénéfice de manière très sereine. On espère que cet ensemble de modules dans ce cours MVA a permis de déjà vous donner une bonne introduction pour où aller. Il y aura évidemment plus de ressources qu'on va mettre à disposition sur MVA dans les semaines à venir pour aider vers cette migration. Et puis si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également nous suivre ou nous contacter sur nos différents Twitter, blog de chacun des membres présents à ce cours.
Au passage, il va y avoir prochainement des IT Camp, donc c'est des présentations techniques d'un format de 4 heures avec nous trois. Et ces IT Camp sont l'occasion, effectivement, pendant 4 heures de débattre, ou pas de débattre, d'avoir une présentation technique du sujet un petit peu plus longue que ce cours MVA qui dure environ une heure et demie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette URL qui vous donnera les liens d'inscription pour ces IT Camp.
Merci de votre présence.
Merci
et puis
à vous.
À bientôt sur MVA.